Merci Odile Martin. Studio Théâtre, bonsoir à toutes et à tous et merci pour votre fidélité. Il a disparu comme il a vécu, anonymement, au milieu des autres, dans le métro. Alain Krombeck n'est plus et c'est tout un pan de la culture et du spectacle vivant qui disparaît avec lui. Dans notre jargon professionnel, nous distinguons les spectateurs professionnels des amateurs. Lui, vu ses fonctions depuis plus de 40 ans, était devenu un spectateur professionnel privilégié. Pourtant, il s'est toujours revendiqué comme un amateur. Amateur, oui. Amoureux fou de la danse, de la musique, du théâtre. Amoureux de tous ceux qui ne sont pas encore connus. Découvreur de talents émergents, il était aussi l'homme de la fidélité, de l'amitié, de la réciprocité. Nous lui rendrons hommage la semaine prochaine et en ce tout début d'émission. Au programme aussi de ce studio théâtre, deux géants de la littérature contemporaine sur les plateaux. À Metz commence une intégrale de Bernard-Marie Coltès, sa ville natale, où nous pourrons réentendre Key West, Roberto Zucco, Dans la solitude des champs de coton et bien d'autres plus inconnus. Et puis, au théâtre de l'Athénée, vient de commencer des représentations de Thomas Bernard, Minetti, Thomas Bernard, interprété par Serge Merlin, qui sera notre invité. Je vous propose tout de suite d'écouter Étienne Daho.
Qui m'obsède, lancinant et obscène. Tous les signaux d'alerte disent attention. Ton âme me possède, mais en moi je réfrène. Mille pulsions secrètes, mille démons. Ta résistance m'attise, j'en brise le mécanisme. Tu 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 tu. Et tu perds tout contrôle de la situation. Tous tes choix uniquement en fonction de tes peurs, jamais de tes envies. La morsure du souvenir reviendra t'envahir, et je deviendrai à mon tour ton obsession.
This. nostalgie très forte, qui est la nostalgie du festival des origines, c'est-à-dire celui de Jean Vidard, de Jeanne Moreau, de Gérard Philippe. Et même les gens qui n'étaient pas là à Avignon à cette époque ont un peu la nostalgie de cette époque révolue. Hein. Le festival d'Avignon a changé, c'est-à-dire il a été jusqu'en 63 le lieu d'une esthétique, d'un homme, d'un théâtre, qui a été le Théâtre National Populaire. Et Vidard, à partir de 63, quand il quitte le TNP, devient un directeur du festival d'Avignon, d'un Avignon qui est celui d'aujourd'hui, c'est-à-dire d'un festival ouvert vers les autres disciplines, le cinéma, les écritures contemporaines, avec Lucien Atoun, le théâtre musical, avec Radio France, les jeunes metteurs en scène. Et je crois que c'est un peu ce festival qui continue aujourd'hui, plus de 30 ans après.
Nous venons d'entendre la voix d'Alain Krombeck. Personnellement, moi, je suis très émue d'entendre la voix d'Alain. On était au théâtre encore dimanche dernier ensemble, puisque le festival d'automne bat son plein. Marie Collin, vous êtes directrice artistique de ce festival d'automne que présidait donc Alain. Là, on vient de l'entendre, c'était au moment du festival d'Avignon. Je me souviens de lui avec son vélo Solex pour pouvoir aller d'une scène de théâtre à l'autre le plus vite possible, mais aussi de la manière la plus modeste qui soit, accompagner les artistes, les plus grands, ceux aussi qui étaient totalement inconnus. Cette espèce de modestie, cette espèce de désir de se nourrir du théâtre comme si c'était sa seule respiration possible. Qu'est-ce qui s'est passé ? Cette mort a surgi brutalement dans le métro, comme je le disais tout à l'heure. On a l'impression qu'Alain Krombeck représente une partie très 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 importante de tout le spectacle vivant en France, mais pas seulement en France, de la scène internationale aussi.
Oui, Alain, il a commencé... Avant le Festival d'Avignon, il a commencé au Festival d'Automne, puisque Michel Guy, quand il a fondé le Festival d'Automne en 72, a demandé à Alain, ce qui était paradoxal et une idée géniale, d'être l'attaché de presse du festival. Or, Alain, pour ceux qui le connaissent, est un personnage extrêmement mutique, qui avait tout de même beaucoup de difficultés à parler, et finalement, quand c'était un faux mutique, parce que quand les sujets l'intéressaient, quand on savait l'écouter, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup raconter l'histoire et les histoires. Et c'était un conteur formidable. Donc, avant même ce festival d'automne des années 70, moi j'ai connu Alain, il s'occupait de Jérôme Savary, ce qu'on ne sait pas trop. Il est un personnage, évidemment comme nous tous, mais particulièrement multiple, à facettes multiples. Il s'intéressait aussi bien aux poètes. On se souvient de tous les programmes qu'il a fait à Avignon autour de René Char, de René-Louis Desforêts, enfin, des programmes magnifiques, mais en même temps, c'est aussi lui qui, le premier, a invité Royal de Luxe à Avignon. Donc c'est en tout cas moi ce que j'ai profondément aimé dans le travail que j'ai conduit avec Alain depuis qu'il a, il est revenu au Festival d'automne après la mort de Michel Guy. Et c'est ça, c'est cette curiosité, cette ouverture à toutes les écritures, cette passion du spectacle. Et vraiment, quand je dis spectacle, oui, il aimait les grands spectacles aussi. Pas uniquement le travail de recherche, qui fait partie aussi de ses passions, mais bon. Et c'est très rare d'avoir une personnalité qui puisse, comme ça, naviguer à toutes ces échelles. Curieux de ce qui se passait, évidemment, dans la création française, mais curieux du monde. Quelqu'un qui a beaucoup contribué à la connaissance de cultures extra-européennes, puisqu'il y a eu des grands programmes. On se souvient du programme...
Mahabharata,
voilà,
par exemple.
Le Mahabharata, le premier grand programme iranien à Avignon, qu'on a ensuite réexploré avec le Festival d'automne et la Villette. On a été les premiers à faire venir un grand théâtre iranien qui est le Tazieh. Alain était vraiment... totalement passionné. Le dernier grand voyage qu'on ait fait ensemble, c'était pour la préparation de l'année du Brésil en France. Et là, j'ai retrouvé Oui, le Alain Crombeck des débuts, qui était vraiment curieux de tout et qui était aussi très opiniâtre. C'est-à-dire que quand on avait un projet, il aimait vraiment qu'on le mène à bout. Et cette année encore, grâce au Théâtre de la Ville, bien sûr, mais il a vraiment voulu qu'on ouvre le Festival d'automne 2009 avec l'Opéra de Katsu de Bob Wilson. Et c'était vraiment une entreprise plutôt très difficile.
Oui, mais ô combien merveilleuse. Voilà, nous avons parlé ici avec Bob Wilson.
Magnifique, donc ça valait évidemment vraiment la peine. Mais j'ai vu Alain là qui a... il a vraiment beaucoup œuvré pour qu'on y arrive.
Alors nous avons en ligne Arthur Nosiciel. Nous sommes en plein Festival d'automne, Marie. Et je vous remercie infiniment d'avoir accepté d'être venu dans cette émission.
Et Arthur d'ailleurs est deux fois dans le programme.
Alors Arthur justement qui est en ce moment dans son propre centre dramatique, le CDN d'Orléans, en train de donner les premières représentations de Jules César de Shakespeare. Vous êtes en ligne, Arthur ?
Oui. Ben justement, c'est la première ce soir. Et donc, moi, je suis totalement habité là, par cette nouvelle d'Alain, de son départ, qui, donc quelque part, je dirais, les conversations qu'on avait eues récemment autour de la question de la mort et de sa peur de la mort rejoignaient complètement... ce qu'il y a là dans le spectacle. Donc, pour moi, il lui est complètement dédié, ce spectacle qu'il a voulu aussi qu'on présente en France et nous donner cette chance de présenter ce Jules César. Moi, je suis très, très bouleversé. Je me sens à peine légitime après avoir entendu Marie, qu'il a tellement connu, avec qui ils ont fait tellement de choses ensemble. Moi, j'ai connu Alain il y a longtemps, mais en jouant au Festival Lyon comme acteur, et je le regardais observer, en fait. J'aimais l'observer. Et petit à petit, j'ai développé comme ça une vraie tendresse pour Alain. Et j'étais content que ces derniers temps, on ait pu avoir l'occasion de se connaître mieux et de parler ensemble. Parce que, enfin, pour moi, c'était devenu quelqu'un comme une espèce de phare. Je trouvais que la façon qu'il avait d'être dans ce milieu, dans nos métiers, était pour moi très importante et très éclairante, justement. Parce qu'il avait... c'était quelqu'un, je trouve, qui avait une forme de radicalité, et de, comme le disait Marie, quelque chose de têtu, d'une obstination. Et en même temps, cette présence qui était tellement discrète, tellement en retrait, mais je dirais qu'il n'en pensait pas moins, mais jusqu'à devenir pour moi une présence quasi poétique. Voilà, et c'est quelqu'un dont je trouve qu'il y avait une façon d'accompagner les artistes, de regarder les artistes et de croire en un théâtre d'art qui était tout à fait exceptionnel. Et pour moi, de même que la disparition de gens comme Peter Zadek ou Klaus-Michael Gruber ont été des choses que je trouve très bouleversantes parce que c'était des forces d'inspiration incroyables.
Le Festival d'automne continue, Alain continue à rester dans notre mémoire. Nous lui rendrons un hommage la semaine prochaine où nous pourrons entendre sa voix, son parcours, comme vous l'avez dit. Il y a eu aussi le Festival de Nancy, il y a eu l'apport et la découverte grâce à lui de Merce Cunningham, par exemple, j'y pense, qui lui aussi vient de disparaître. Brigitte Salino, vous êtes critique de théâtre au journal Le Monde. Vous allez nous parler tout à l'heure de Bernard-Marie Coltès, à qui vous venez de consacrer un très bel ouvrage. Que représentait pour vous Alain Crombeck ?
Alain Crombeck, pour moi, c'est d'abord quelqu'un qui savait écouter et qui avait toujours un livre à la main. Et ça, c'est très important parce que si on ne parle que du théâtre, le théâtre, eh bien, il vient de la littérature. Et Alain Crombeck lisait, on le voyait avec des livres. Enfin, on ne le voyait pas d'une manière ostentatoire, mais il avait des livres et il savait écouter. Mais hier, j'avais Patrice Chéreau au téléphone pour parler d'Alain Crombeck et il a dit cette chose qui est vraiment très... Voilà, qui est celle de Patrice Chéreau, mais qui est effectivement très, très belle et juste. Il dit, on ne peut pas dire... qu'il était plus grand que les autres, ça n'a pas de sens. Il était plus intéressant que ça. Il ne faisait pas mieux, il faisait autrement. Et ça, par exemple, on en a une idée très, très nette quand il s'agit... Bon, quand il est à Nanterre, quand il réinvente le théâtre de Nanterre avec Patrice Chéreau, Patrice Chéreau, pour ouvrir Nanterre, voudrait monter une pièce de Bernard-Marie Coltès. Il pose la question à son équipe et il dit Alain Crombeck répond tout simplement... un nouveau théâtre, un nouvel auteur. Et Patrice Chéreau dit, c'était comme ça avec lui, une phrase et une situation était éclaircie, la décision était prise et il disait, chaque fois que je le pouvais, je le suivais.
Ben, nous continuerons à suivre, je crois, l'exemple et le modèle que représentait, c'est même difficile de parler au passé, d'Alain Krombeck, et auquel nous rendrons hommage la semaine prochaine. Merci infiniment, Marie Collin. Je vous propose d'écouter Salif Keïta, La différence, ça lui va bien.
Je suis un noir, ma peau est blanche, et moi j'aime bien ça, c'est la différence qui est jolie. Je suis un blanc, mon sang est noir, et moi j'adore ça, c'est la différence qui est jolie. Je voudrais que nous nous entendions dans l'amour, que nous nous comprenions dans l'amour et dans la paix. La vie sera belle.
Vous écoutez Studio Théâtre à Paris, au Théâtre de l'Athénée vient de commencer, ce jusqu'au 24 octobre, des représentations de Minetti, cette pièce célèbre de Thomas Bernhard. J'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Minetti, alias Serge Merlin.
Studio Théâtre sur France Inter.
Serge Merlin, vous interprétez le rôle de Minetti, la pièce de Thomas Bernhard dans une mise en scène de Gérald Schumann qui vient de commencer au Théâtre de l'Athénée, le Théâtre Louis Jouvet. Vous avez une longue fréquentation avec Thomas Bernhard, parce que je me souviens, il y a quelques années, vous aviez déjà joué Simplement compliqué, du même Thomas Bernhard, et puis il y avait eu aussi Le neveu de Wittgenstein. Et quand on vous voit sur scène dans Minetti, on a l'impression que vous êtes Minetti. Que représente pour vous Thomas Bernhard ?
Un génie et mon ami le plus cher, le plus profond, l'homme qui m'a amené beaucoup. Je ne sais pas dire à quel endroit il m'a amené des choses, mais Il s'est entièrement livré à moi et je voudrais aussi le délivrer. Voilà, des choses comme ça.
Le délivrer de quoi ? De la douleur, de la souffrance qu'il a endurée dans son parcours d'écrivain ?
Oui, parce que là, je crois que sa souffrance a été son existence. Et une existence, ça ne se peut pas être renié par la souffrance, mais il faudrait que ça soit peut-être réconcilié avec elle-même, enfin, pacifié, magnifié, pas adouci, mais sans doute en accord harmonique avec les humains, même si ça a été un point de séparation vital et existentiel et le plus profond de lui qui a après inscrit tout son rapport au monde, qui n'a été qu'une souffrance qui a été peut-être constituée d'une chose physiologique et qui a été un regard sur l'existence entière telle qu'elle lui est apparue, la vie. J'ai senti une abschiede, que je crois on dit ça en allemand, je l'ai entendu chanter par Ferrier, ça dans Gustav Mahler, c'est-à-dire l'abschiede, la chute, et il chute vers les mains tendues de quelqu'un. Alors, il faut le prendre au milieu de toutes les méchancetés de son ironie, les coups d'épouvante avec lesquels il nous lézarde et nous trucide à tous les instants pour entendre qu'au fond, ce qu'il chante, c'est simplement la beauté de savoir que nous n'y atteignons pas. Et là, je suis très en buccalité avec lui, c'est-à-dire tout à fait dans la présence d'un souffle qui est toujours là, et ça c'est magnifique d'entendre le poète possiblement sourdre et vous faire danser au travers de sa tombe, danser sur sa tombe par un texte. Et celui-là, en plus de ça, comme ça s'adresse à un acteur, et que je suis complètement étonné, effaré, par l'âge qu'il pouvait avoir au moment où il a écrit ça, et la connaissance incroyable, non visitée, inconnue de moi dans tous les cas, de l'endroit, du lieu dit, du noyau, de l'os, de la moelle, où se situe la création de ça qui s'appellerait acteur, qui n'est d'ailleurs pas un art, et la façon dont il exalte et le monte à un point d'une focale indicible et dont il rédempte la vie avec un art qui n'en est pas un, qui est simplement un mâchonnage de textes, mais qu'il porte à son vrai lieu et à son ineffable grimace instantanée et déjà disparue. Ça, je suis très effaré par ça.
C'est ce que nous ressentons, nous, spectateurs, quand nous allons au théâtre de l'Athénée. Vous écoutez, vous, Serge Merlin, vous arrivez en scène quand la représentation commence tout en mitouflé, le corps alourdi par la neige que vous venez de traverser. Vous entrez dans le hall d'un hôtel à Ostende. Et vous, Minetti, puisque vous êtes Minetti, le Minetti de Thomas Bernhard, vous attendez le directeur du Grand Théâtre d'Ostende. Et toute la pièce va se dérouler dans ce hall d'hôtel où à chaque fois que Minetti voit une personne rentrer par la porte battante, il espère que ce sera le directeur du Théâtre d'Ostende. Ce Minetti a vraiment existé et Thomas Bernhard a souhaité lui rendre hommage à travers ce texte. Avez-vous rencontré Minetti ? L'avez-vous joué, le vrai Minetti ?
Je l'ai vu jouer. Je l'ai vu jouer à un quart d'heure, je l'ai vu, dans Le Roi Lear, que je devais jouer après avec Mathias Langhoff. Et je suis allé voir ce Roi Lear monté par Gruber, que je connaissais un peu. Et il était tout en fourrure et tout ça. J'ai rien compris à la chose. Et j'ai entendu juste un instant comme ça, mais ça me suffit à moi. d'entendre juste une prononciation, un débit, un rythme, une cadence, une présence vocale, une intensité de l'être, la direction du regard vers un espace qui serait un lire à voir comme ça. Et j'ai entendu juste cette chose. Et puis je suis parti parce que, non pas que ça me suffisait, mais ça allait. Et je l'ai vu une autre fois à l'Odéon lire des textes de Thomas Bernhard en allemand, et j'y comprenais rien d'abord. Et puis je ressentais qu'il avait de l'humour, des choses comme ça, par rapport à un public allemand qui était là, bon, et... Mais bon, je ne suivais pas et je voyais ce grand monsieur très, très officiel, comme ça, très acteur allemand, enfin, avec, comme qui dirait, un pédigré, une dynastie. Vous voyez, de ces hommes géants, enfin, qui sont toute la Germanie et qui peuvent jouer tout le classicisme allemand, comme ça, au nom de Heidelberg. Mais voilà, c'est une apparition, c'est très apparitionnel de la culture, vous comprenez. Mais c'est, comme qui dirait, une grande image. Mais je ne pouvais pas, moi, entendre plus. Alors là aussi, je suis parti. Mais voilà, voilà, je l'ai vu, oui, Adler, Madame Adler, je l'ai vu.
Monsieur Merlin, je vous propose d'écouter la voix non pas de Minetti, que vous avez vue, mais de Thomas Bernhard, que vous n'avez jamais rencontré.
Jamais.
Wenn man also Frost liest zum Beispiel, ich habe ja immer schon Material zum Lachen geliefert. Ne? Das ist eigentlich alle Augenblicke hell auf zum Lachen.
Quand on lit Gel, à chaque instant, il y a de quoi éclater de rire. En fait, j'ai toujours donné de quoi rire. Mais je ne sais pas, les gens n'ont pas d'humour ou quoi. Moi, cela m'a toujours fait rire. Et aujourd'hui encore, quand les choses me semblent insipides ou qu'il y a une période tragique, j'ouvre un de mes livres. Et c'est encore ce qui me fait le plus rire.
Oder verstehen Sie das nicht?
Mais peut-être ne comprenez-vous pas qu'il en soit ainsi. Cela ne veut pas dire que je n'ai pas écrit aussi des phrases sérieuses à l'occasion et pour que les phrases drôles se tiennent. Car elles en sont le ciment, le sérieux cimente mon programme comique. Mais on peut dire aussi bien sûr que c'est un programme comico-philosophique que j'ai entamé il y a 20 ans en commençant à écrire.
Ça vous fait rire, hein, Serge Marlin, d'entendre la voix de Thomas Bernhard et son humour ravageur. Et la manière dont il répond aux entretiens.
C'est un gredin, un voyou. Ah oui.
Mais un voyou philosophique qui flirte avec les abîmes et la ruine même de l'idée de théâtre, de l'idée même de représentation. Et pour vous qui êtes en scène pendant presque 2 heures sur ce plateau du théâtre de l'Athénée, vous restituez la cadence, le rythme, la stridence de l'écriture de Thomas Bernhard. Là, il parlait de son roman « Gel ». Mais dans l'ensemble de ses écrits, il y a une espèce de côté tourbillonnant. Il y a une phrase qui ne s'arrête jamais, il y a un côté labyrinthique et en même temps, il y a une espèce de désillusion sarcastique de ce que nous sommes, nous, dans le regard des autres, non ?
Vous avez cerné complètement un lieu, là, bernardien. C'est vrai ?
C'est vous qui êtes bernardien.
Non, mais...
En diable.
C'est ça... C'est, savez-vous, mon travail de cette affaire-là, Minetti, n'a consisté en définitive qu'à me mettre tout le jour en colère. Et ça n'a été que ça. C'est-à-dire, j'avais un questionnement radical, il y avait toujours une douzaine de questions que je posais à mon metteur en scène, qui, je ne sais pas pourquoi, était toujours dans une île. Alors c'était au large de la Grèce, après dans des îles anglo-normandes, puis à Ischia, à croire que vraiment... Alors, je lui disais une douzaine de questions à chaque fois, parce qu'elles étaient pressantes, et elle m'oppressait, alors je les lui donnais à être aussi oppressante qu'à moi, et il ne me répondait jamais.
Peut-être alors, parce qu'il était angoissé par vos questions et par le texte même de Thomas Bernard.
Je ne sais pas. En tout cas, ces questions radicales, je n'en ai jamais eu de réponse. Et comme il était amical, parce qu'il ne se blessait pas de cette façon d'être, ni de ce transport amoureux vers le texte, il m'a toujours laissé très seul. Et sur
normal,
ce
hein.
Mais très seul.
Mais c'est normal. Quand mais on oui, est avec du Thomas Bernard, il faut être seul avec soi. Hein.
Mais j'étais pendant un an et demi comme ça.
Mais ça vous a bien réussi. Hein. Mais, extrêmement bien réussi.
Et alors, le lieu de ces questions est resté béant. Et ce sont des cicatrices, comme qui dirait sur le texte, enfin, qui ont complètement disparu parce que, comme qui dirait par schizyparité, je crois que c'est un terme scientifique qui dit que l'on rentre à l'intérieur ou tout ça, les questions ont disparu en même temps que la pénétration dans le corps de la chose s'est opérée. De telle sorte que je me demande où étaient ces questions, il reste toujours les clés que je n'ai pas utilisées et que je n'ai plus, et dont je ne connais plus les serrures ni les endroits. Et je suis au-dedans sans savoir quel était le monstre qui était au-dehors et qui les posait, ces fameuses questions, tout autant oubliées les unes que les autres.
Ben vous êtes devenu Thomas Bernard lui-même. C'est pour ça qu'entre Minetti et vous, il n'y a même pas l'espace d'un papier à cigarette. C'est pour ça que nous, spectateurs, quand nous assistons aux représentations de Minetti, nous sommes littéralement envoûtés et capturés par votre propre parole, par votre propre interrogation. Avec en plus, et ça je l'avais oublié, ce côté ultra-contemporain de ce texte de Thomas Bernard sur la société de consommation, sur notre société qui perd le goût de la culture, des repères, des valeurs essentielles de la beauté de l'art.
Mais c'est, vous êtes formidable.
C'est vous.
Mais non, mais... comprenez-vous oui, c'est ça, c'est ça. Vous savez ce terme qui revient tout le temps dans la pièce, à savoir classique. Classique, c'est le classique moderne aussi bien, c'est le classique contemporain, c'est le classique du poisson pourri qui pend à Versailles dans la galerie des glaces, vous comprenez, et qui sue les dollars, alors que tout est repeint à l'or pendant des années avec des cotons-tiges, vous comprenez, c'est des choses comme ça. Classique, c'est pas le siècle de Louis XIV ni le XVIIIe, classique c'est tout le temps. C'est à perpétuité que tout devient de la mort et qu'on nous endort avec de la mort pour nous endormir davantage. C'est pas Molière qui est classique, comprenez ? Vous l'avez dit, c'est ça, c'est ça. C'est cette rage contre ce désespoir inabouti d'espoir de voir se lever enfin l'intelligence de la chair, la perception.
Ce Minetti, ce personnage que vous incarnez sur scène, Serge Berlin, il est très sarcastique sur le monde, il est très sarcastique sur lui-même. Il a cependant des moments de grande tendresse, notamment quand une jeune fille vient attendre son amoureux dans le hall de cet hôtel dont nous avons parlé à Ostende par une nuit de neige. Et là, on a l'impression qu'effectivement, il s'ouvre à lui-même. Est-ce qu'il croit lui-même à son personnage, selon vous ?
Je crois que c'est la rencontre de deux enfances, une enfant qui est béante d'amour pour l'amoureux qui vient à minuit le soir de la Saint-Sylvestre, et un être qui est au bord du gouffre et qui s'ouvre à la vie et aux reproches définitifs que sera sa mort, qui sera comme une objection. Il dira non pour toujours à tout ce qui a été la définition de son être. Il se restera en fidélité à cet amour. Je pense que c'est ça leur rencontre. C'est sur ce point vital, essentiel, de ce salut de l'enfance possiblement détruite et gâchée.
Partir, partir, sont ces deux derniers mots. Est-ce que vous accepteriez de nous donner un court extrait de Minetti ?
Je ne saurais pas.
Ben, je vous comprends, parce que vous l'êtes uniquement sur la scène. Ben, il faut aller vous voir, il faut aller vous écouter. En tout cas, merci infiniment, merci. Serge Merlin, et bravo. Merci. Infiniment merci. Bravo et merci du fond du cœur pour merci. Cette interprétation que vous faites de Minetti. Donc, il vient de commencer au théâtre Louis Jouvet Athénée, à Paris, et ce jusqu'au 24 octobre, dans une mise en scène de Gérald Schaumann. Et bravo aussi à l'ensemble de la troupe, qui est tout à fait formidable. Et on sent la solidarité de la troupe.
Oui. Merci, merci de nous avoir tous vus en même temps. Merci.
Studio Théâtre, Laure Adler.
Vient de commencer donc à Metz, dans sa ville natale, l'intégrale Coltès. Michel Didyme, c'est vous qui l'avez préparé, et ce depuis longtemps. Et grâce à vous, on va pouvoir découvrir finalement une nouvelle face de Bernard-Marie Coltès, avec des pièces qui ont été très très peu représentées. Je pense par exemple à Coco, à des pièces comme ça qui datent du début de l'écriture de Bernard-Marie Coltès. Vous dites dans le dossier qui accompagne cette immense manifestation que vous teniez à ce projet à cause de la cadence de l'écriture et de l'incandescence de Bernard-Marie Coltès.
Oui, je crois qu'il y a, on pourrait presque dire à l'instar de grands peintres qui ont des périodes roses ou des périodes bleues, puis ensuite deviennent des cubistes, il y a plusieurs Coltès. Et il y a un Coltès qui est, on le voit, passionné par Dostoïevski, qui est incandescent, qui est très romantique, ensuite, qui est aussi un metteur en scène, qui est aussi un chef de troupe, qui donne dans ses textes énormément de didascalies, énormément d'indications pour les interprètes, pour le metteur en scène. Et puis, on a ensuite un Coltès qui s'affranchit totalement de tout cela. Certainement la période où il commence à rencontrer Patrice Chéreau, et où les indications de mise en scène sont de plus en plus éparses et succinctes et minimalistes. Et puis, on est quand même dans une écriture très formelle. Key West, Combat de Nègre, ou bien Dans la solitude des champs de coton, c'est des dialogues philosophiques, mais c'est une unité de lieu, une unité d'action. Ce sont des choses très cernées, esthétiquement. Et puis, ensuite, on a un Coltès totalement épique, celui du Roberto Zucco, qui est quelqu'un qui finit par dire que tout ce qu'il a pensé avant est nul et non avenu, et que toutes les règles qu'il s'était imposées ne servent à rien, et que quand un personnage a quelque chose à dire, il entre, quand il a fini, il sort, et qu'il suffit de dire qu'on a changé de lieu pour que le public le comprenne, et qu'il n'y a pas besoin de se préoccuper de ce genre de choses-là. Donc, on le voit clairement à la lecture des différents entretiens qu'il a donné dans un bouquin, je vous conseille d'ailleurs, qui s'appelle « Une part de ma vie », dans lequel sont réunies toutes les interviews qu'il a données durant sa vie, que Coltès dit en 88, il dit le contraire de ce qu'il disait en 83. Et en même temps, ce n'est pas vraiment le contraire. C'est juste c'est le même poète, mais qui a évolué, qui a avancé, qui se positionne autrement, tant vis-à-vis de l'écriture que vis-à-vis de la société. C'est quelqu'un qui a fait des expériences intimes et des expériences de vie singulière. Et c'est cette démarche-là qu'on veut un peu respecter dans l'intégrale, avec la découverte des textes fabuleux comme La Marche, qui est une adaptation du Cantique des Cantiques, où on aura la chance d'avoir pour La Marche Charles Berling et Romane Boringer, Judith Magre et Michael Lonsdale, qui vont, les deux vont accompagner, faire le couple de jeunes, les fiancés, puis deux autres feront le couple des époux, plus âgés. Alors que c'est la même. C'est le même rapport à la sensualité, à la sexualité en quelque sorte, mais dans des étapes différentes de la vie. Et c'est ça que donne magnifiquement entendre Coltès.
Brigitte Salino, vous venez de publier aux éditions Stock un très beau livre sur l'itinéraire de Bernard-Marie Coltès. Ce n'était pas si facile que de raconter cette existence fulgurante. Il est mort à l'âge de 41 ans du sida. Il fait partie de cette première génération de jeunes gens absolument foudroyés alors qu'il prenait son envol. Vous retracez toute l'enfance de Bernard-Marie Coltès, aussi l'influence très bénéfique et merveilleuse de sa mère, qui a été très très importante dans son existence, et puis aussi cette détermination qu'avait ce jeune homme, qui savait qu'il voulait écrire, qu'il voulait en écrire, et qu'il savait où il voulait aller, alors qu'il ne connaissait personne, qu'il était seul au monde, dans le monde du spectacle vivant, où souvent c'est un monde d'héritiers, Mais lui, il était tout seul, mais il savait qu'il allait pouvoir faire passer ses textes.
C'est quelqu'un qui s'est construit. Il décide à 20 ans, après avoir vu Maria Cazares jouer dans Médéa, que quoi qu'il arrive, il écrira et qu'il ne passera jamais 8 heures de sa vie à travailler pour un patron. Alors, les conditions des années là sont plus tendres et plus faciles qu'elles n'étaient dans les années 70 et 80, que ça ne l'est maintenant. Mais malgré tout, il fallait le tenir, ça. Bernard-Marie Coltès, financièrement, a été aidé par des proches et des amis et sa famille jusqu'au moment où il a gagné de l'argent, mais c'était très tardivement. Donc, il s'est tenu d'un point de vue financier, qui témoigne de sa détermination, et surtout, comme écrivain, il se construit. Il écrit cette chose extraordinaire à sa mère un jour où il est à New York, et je dis en substance, il dit « Si j'arrivais à capter ne serait-ce qu'une part de la beauté de ce que je vois, je deviendrais le plus grand écrivain de ma génération. » Et c'est vrai qu'il faut énormément de force pour parler comme ça, surtout quand on a du talent. Mais ce talent-là, c'est pas celui du génie, comme on peut. En plus, il était très beau, il meurt jeune, il y a tout pour une légende. C'est pas un talent inné, c'est quelque chose, c'est du travail, du travail, du travail. Il y a toutes ces années de formation à Strasbourg pendant lesquelles il écrit ses pièces de jeunesse, qu'il avait renié après, mais qui, pendant lesquelles il s'exerce. Et c'est quelqu'un qui se construit comme écrivain et qui va, comme beaucoup de grands d'écrivains, de grands écrivains, il le paye aussi.
Il le paye même assez cher. Vous racontez notamment que cette pièce, qui pourtant, dans mon souvenir, avait été une pièce particulièrement réussie, avait été finalement très mal reçue. Cette pièce qui s'intitule « Dans la solitude des champs de coton » au Théâtre des Amandiers de Nanterre, il y a eu toujours une reprise, et ça aussi c'est très émouvant dans votre bouquin, Brigitte Salineau, c'est quelqu'un qui n'avait jamais raison. Et quand il voyait l'évolution de l'adaptation de son écriture sur un plateau, y compris par Patrice Chéreau, et qu'il voyait que ça ne fonctionnait pas par rapport au public, eh bien il reprenait le travail. Il était toujours très attentif à l'évolution de son propre travail, à l'accueil, et il s'auto-critiquait en permanence.
C'est vrai, mais maintenant on réécrit parce que le temps a passé. L'ouverture de Nanterre a mondié avec Combat de nègres et de chiens. C'est en 1983, donc il y a eu une sorte de légende sur Coltès et ces années-là aussi. Et quand on va regarder dans les archives, quand on reprend les papiers, parce que tout le monde vous dit « Ah, c'était extraordinaire, tout ça », mais si vous reprenez, c'était pas du tout simple, ni pour Coltès, ni pour Chéreau, c'était un combat. Et ce combat, ils l'ont mené. Et après, il y a eu Key West après combat, et ça a été un échec critique et du point de vue du public. Et là, à ce moment-là, bon, à Nanterre, il y avait des pressions pour que Chéreau monte quelque chose qui rapporte de l'argent, puisqu'il avait mis le théâtre au bord de la faillite avec cette production. Et lui, il dit non, je ne vais pas faire ça. Je vais créer une nouvelle pièce de Bernard-Marie Coltès.
Et c'est pas une petite mise en espace, comme vous dites.
Voilà. Et donc, c'est là qu'il crée Dans la solitude des champs de coton. Et donc, il y a cette association qui est absolument magnifique et très rare entre un auteur et un metteur en scène exactement contemporain. L'un écrit pour l'autre et l'autre qui met en scène, et l'un met en scène pour celui qui écrit. Et ça s'est vu très peu. Ça s'est vu du temps de, essentiellement, le rapport le plus proche, c'est celui de Tchekhov et Stanislavski, toute proportion gardée. Et ils tiennent. Et ils continuent. Et là aussi, ce sont des gens qui travaillent. Coltès travaille.
Il travaille tout le temps, et même quand il voyage, car vous le montrez, vous nous le faites découvrir comme un grand voyageur, ivre d'Afrique. Et Dieu sait qu'il en a bien parlé dans ses textes de théâtre. Et à chaque fois qu'il voyage, eh bien, on a l'impression que son imaginaire se déploie de manière beaucoup plus ample et qu'il se régénère. Littéralement, je vous propose de l'écouter. Justement, on entend la voix de Bernard-Marie Coltès parler de ses voyages aller-retour, Barbès et l'ailleurs.
Si on fait une comparaison entre mes impressions de Barbès et mes impressions du Nigeria, je dirais que les personnages qui sont des étrangers à Barbès, c'était l'inverse qui s'est produit au Nigeria. C'est-à-dire que s'il y a des étrangers dont je parle dans ma pièce Combat de nègres et de chiens, ce sont les trois blancs qui sont confrontés à l'Afrique en tant qu'une chose extrêmement inconnue, une chose extrêmement pesante, c'est-à-dire telle que j'ai pu la ressentir en y étant à moi. Et surtout au Nigeria, où l'Afrique et les Africains sont extrêmement, extrêmement fermés, relativement hostiles, à juste raison, et on ne peut l'apercevoir que d'une manière extrêmement lourde. Et c'est intéressant de faire la comparaison, parce que c'est à peu près la manière dont les Africains de Barbès doivent ressentir la France. Et c'est intéressant, enfin, c'est, pour moi, ça m'intéressait.
Judith Magre, Michel Didi me disait tout à l'heure que vous alliez interpréter la jeune fiancée, mais vous allez...
Non.
Non, pourtant vous êtes... Ah, l'épouse. J'aurais préféré que vous soyez la jeune fiancée, car vous êtes la jeune fiancée du théâtre.
Oui, si vous voulez, l'épouse aussi, pourquoi pas, quoique épouse, moi je ne suis pas tellement pour le mariage.
Ben non, c'est pour ça que je trouve que ça ne vous va pas bien.
Mais il n'y a pas que ça, voilà. Surtout, il y a un personnage que j'adore... C'est le personnage d'une femme dans Le Retour au désert.
J'allais y venir. Donc, vous allez interpréter ce personnage dans Le Retour au désert. Est-ce Mathilde. La première fois, Mathilde, est-ce la première fois que vous interprétez du Coltès?
Alors, je ne connais pas du tout Coltès.
C'est bien ce qui me semblait.
Mais
c'est
pas
bien
du
la
tout.
Première
la
fois.
La seule pièce que j'ai vue de lui, c'est dans La solitude des champs de coton. J'ai été absolument bouleversée. J'ai adoré ce spectacle. Mais finalement... Et je sais pourquoi, d'ailleurs, je ne connais pas Coltès et je ne suis pas allée voir d'autres spectacles. C'est parce qu'il y a très, 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 très longtemps, je ne vous parle pas de la guerre de 100 ans, mais presque, j'ai dit un jour à Patrice Chéreau, pour qui j'ai un amour et une admiration sans bornes, que je souhaiterais beaucoup travailler avec lui. Et je savais, en lui disant ça, que ça ne se ferait jamais. Et ça ne s'est jamais fait. Et ça me reste à travers de la gorge. Enfin, pas tellement, parce que j'ai travaillé quand même avec d'autres et je ne peux pas me plaindre. Mais... Et alors, Chéreau et Coltès étant tellement liés dans mon esprit, donc voilà, et j'ai hâte de lire le livre de Brigitte Salino, j'ai hâte d'aller à Metz pour tout connaître, de tout lire en tout cas, tout entendre, et surtout pour jouer cette Mathilde, parce que vraiment, elle raconte tout ce que moi, j'ose raconter n'importe quoi maintenant, mais elle dit vraiment des choses qui me sont... très proche. De toute façon, quand on me propose un rôle, j'ai toujours l'impression qu'il est écrit pour moi. Parce qu'on n'est pas simple.
Vous avez raison, mais comment vous ressentez l'écriture, justement, de Bernard-Marie Coltès, vous qui la découvrez?
Je la découvre avec ravissement. Et j'attends, vous savez, j'attends de l'entendre. J'attends d'être à Metz, j'attends de travailler avec Michel, j'attends d'écouter ça, de l'écouter, pas seulement de lire.
Alors, tout à l'heure, Michel Didim, vous avez dit qu'il y avait plusieurs Bernard-Marie Coltès. On peut s'en apercevoir aussi dans le livre de Brigitte Salino. Il y a un Coltès qui se cherche et qui cherche à être, peut-être sans le vouloir ni sans le savoir, ce qu'il est devenu réellement, c'est-à-dire un auteur de théâtre universel, puisqu'il est traduit dans de très nombreuses langues et que ses pièces sont jouées dans le monde entier. Mais le couple Chéreau-Coltès, ça n'a pas toujours été évident. Et je me souviens d'un moment où Bernard-Marie Coltès disait « Chéreau, Chéreau même, mais moi j'aimerais bien être monté par d'autres que Chéreau. Je ne suis pas l'unique destinataire. Mon écriture n'est pas uniquement destinée à être traduite et mise en scène par Patrice Chéreau. »
Peut-être que je vais jouer du Coltès alors.
Oui, peut-être. Je ne sais pas, je pose la question à Michel Didi, mais à Brigitte Salino.
Je crois, sincèrement, il l'a dit, on le voit bien d'ailleurs dans plusieurs interviews, dans plusieurs entretiens, il reprochait, peut-être. D'ailleurs, je crois que Patrice a dit quelque chose du genre « Moi, je suis de Montparnasse et lui, il est de Barbès. » Il y a toujours eu un endroit où on a du mal à se comprendre. Mais il a magnifiquement quand même monté les textes de Bernard-Marie. Il se plaignait peut-être d'un manque d'humour, des fois. Alors, il se plaignait aussi beaucoup des metteurs en scène allemands qu'il avait vus, Bernard-Marie. Et moi, je l'avais rencontré pour monter La nuit juste avant les forêts. Et à l'époque, j'étais encore acteur. Et très souvent, c'était des acteurs qui avaient le projet de monter La nuit tout seul. Après, finalement, je l'ai mis en scène et je ne l'ai pas interprété, puisque je ne me sentais pas la force de le jouer et de le mettre en scène. D'ailleurs, même là, pour inaugurer l'intégrale Coltès, je vais jouer La nuit juste avant les forêts. Parce que je réalise donc 20 ans plus tard ce projet de le jouer après l'avoir mis en scène. Et j'ai demandé à Alain Françon de me mettre en scène parce que je ne pouvais pas y arriver tout seul. Vous voyez, c'est très difficile de faire l'oiseau et en même temps l'ornithologue. Et donc, j'avais, moi, avec l'écriture de Coltès, toujours le sentiment qu'il y avait quelque chose encore à faire. Et en plongeant dans ce projet intégral, j'ai trouvé vraiment des choses magnifiques. Et en travaillant spécifiquement sur le retour au désert, j'étais plié de rire dans ma chaise. Je me disais, mais quel génie comique, quel talent inouï. Et effectivement, alors, je crois qu'il y a quelque chose là de fondamental à mettre en œuvre, c'est de dire que Coltès, c'est pas seulement un génie poétique, c'est aussi quelqu'un qui a vraiment un grand talent de dramaturge.
Oui, Brigitte Salineau, y a-t-il des héritiers ? Non. Il est le seul, l'unique, une trajectoire comme ça, fulgurante dans le ciel du théâtre.
Des héritiers...
Des imitateurs, oui, mais pâles. Mais des héritiers...
Oui, mais comme il y a eu beaucoup de gens qui écrivaient à la façon de Duras dans les années 1980. Et puis voilà, ça se passe comme ça. Et puis tout d'un coup, quelqu'un arrive. Non, je voulais juste revenir sur le comique de Coltès. C'est vrai qu'il faisait ce reproche à Patrice Chéreau. Mais Patrice Chéreau parle très bien de ça. Il faut voir que quand les pièces de Coltès sont arrivées, les gens se demandaient ce qui leur tombait sur la tête, parce que c'était une écriture qui était tout à fait nouvelle. On n'avait pas entendu de pièces comme ça, ni lues, ni vues. Et donc, Chéreau dit que toute proportion gardée, et en toute modestie, il a eu le même débat avec Coltès que Tchekhov l'avait avec Stanislavski. Mais en même temps, quand une œuvre, quelque chose est tout à fait neuf, pour le faire entendre, La première fois, il faut vraiment que les choses soient dites et nécessairement ça va vers le côté le plus sombre. Et après, il peut y avoir cette légèreté.
Donc, allez découvrir Bernard-Marie Coltès dans toutes ses langues, dans tous ses registres, à Metz, grâce à cette intégrale jusqu'au 24 octobre. Merci Michel Didim qui coordonnait cette intégrale. Merci à Judith Mag qui allait interpréter Bernard-Marie Coltès, et merci à Brigitte Salineau qui vient de publier un livre magnifique qui s'intitule tout simplement Bernard-Marie Coltès. On écoute Edward Sharp, Wolf Trade.
I've been sleeping for
Studio Théâtre, Kira Retiel, Sophie Moreno, Gilbert Aumont, Laure Adler, toute l'équipe de Studio Théâtre vous remercie pour votre fidélité et espère vous retrouver la semaine prochaine.